Quelle est votre opinion à propos de l'inclusion de la coopération Sud-Sud dans le programme post-2015?
Nos sociétés sont toutes confrontées à divers défis démographiques, sociaux, économiques, financiers, alimentaires, énergétiques et politiques, pour lesquels aucun gouvernement, aucune société ne peut trouver une solution de façon isolée. Il est donc essentiel de l'inclusion de la coopération Sud-Sud dans le programme post-2015. Car il s'agit de mettre ensemble des pays qui connaissent les mêmes réalités, qui s'encouragent les uns les autres, qui partagent, bâtissent une cohésion régionale. Et la coopération Sud-Sud dans ce programme post-2015 pourrait être un instrument pratique, pédagogique, pour mettre les énergies Sud-Sud ensemble. Et je pense que pour un départ, on peut penser de choisir, par exemple, deux régions dont les projets de contexte se ressemblent au niveau du climat, c'est-à-dire la météo, mais aussi politique, parce que il me semble difficile d'entrer dans un partenariat Sud-Sud si dans un pays la décentralisation des pouvoirs est acquise, alors que de l'autre côté, c'est la centralisation qui est en cours. Mais aussi, en choisissant deux pays de la région Sud-Sud pour la coopération Sud-Sud, ajouter à cette coopération un pays industrialisé ou émergent pour leur permettre d'avancer et leur permettre d'avoir l'expérience de ces pays industrialisés ou émergents qui pourront aider dans la coopération Sud-Sud. Donc, moyennant une série de conditions explicites et concrètes, une coopération Sud-Sud dans le programme post-2015 pourrait être intéressante parce qu'elle a la chance d'être proche du vécu concret des gens. Donc, au plus visible, avec des acteurs bien connus du terroir et la population concernée surtout. Parce que j'ai vu, j'ai touché, j'ai senti, j'ai entendu, c'est réellement différent. Donc il faut être sur le terrain pour pouvoir apprécier cela. Et on ne changera le monde qu'à partir des réalités qu'on veut changer, soit qu'elles soient désastreuses ou moins contraignantes. Il y a lieu de partager des expériences. C'est le grand intérêt de la coopération Sud-Sud. Le savoir et le savoir-faire ne s'acquièrent que grâce aux pratiques. Se former en ne lisant que des théories, rien que des théories, est longuement insuffisant, sinon même impossible.
Une fois que l'Union africaine et l'OIT considèrent que la coopération Sud-Sud est fondamentale pour le développement durable, comment envisagez-vous la perspective des droits du travail et le travail décent dans le contexte africain?
La plupart des pays africains ont ratifié les conventions fondamentales du travail. Mais il faut reconnaître que celles-ci ne sont toujours pas appliquées de manière efficace. Parce que si elles étaient appliquées, nous aurions pu facilement atteindre les objectifs du développement en 2015 à partir d'une cohésion sociale et non sur la division. Mais c'est parce qu'elles ne sont pas bien appliquées, ce qui fait défaut. Le travail social est la base de l'organisation sociale des nations modernes. Donc, grâce au travail, la personne existe. La personne a un statut social. Alors que sans travail, la personne est réduite à rien. Et elle souffre. Et si le travail, c'est dès lors très important pour qui veut la paix et la justice sociale. Et bien évidemment, le développement. Et pour les syndicats, la notion clé du développement des États fragiles est liée à ce qui suit. D'abord, c'est chercher la cohésion de construire la solidarité syndicale, reconstruire la capacité de représenter efficacement les intérêts des travailleurs et leurs familles dans les forums bipartites et tripartites pour la consolidation de la négociation de la paix et de la démocratie, mais aussi assurer pleinement le rôle et les fonctions des acteurs sociaux. Donc, mettre le dialogue social et l'organisation du travail décent au centre de la reconstruction de l'État. Il est important dans les États fragiles de mettre au point des programmes pour la promotion du travail décent qui est approprié pour reconstruire leur économie sur la base du travail décent et qui répondent aux besoins de la paix des travailleurs, des entreprises et des gouvernements. Pour cela, il est important de soulever la question du renforcement des capacités comme une priorité pour les syndicats afin de promouvoir un processus de changement social et économique nécessaire pour faire face à la fragilité institutionnelle. Et dans le contexte africain, le travail décent est un facteur incontournable dans le développement et la fin des inégalités qui freinent l'impact positif de la croissance. Il est utile de s'intéresser à la signification du concept même du travail décent, parce que c'est la fierté des pays riches, de l'individu même, dont l'indice de développement humain est en permanence élevé. En Afrique, le travail décent n'est pas étranger à notre culture et à notre survie dans nos communautés villageoises qui en dépendent. Et parce que quand je prends l'exemple, par exemple, quand les villageois s'entraident, et chacun s'intéresse à ce que son voisin fait ou alors font des trocs. Donc, c'est dire que le travail décent n'est pas étranger à notre culture. Et il y a un proverbe africain qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, sache d'où tu viens. Et quand on te lave le dos, arrive à te laver le ventre. » Et c'est pour ça, donc, pour mieux réaliser l'importance du concept travail décent dans le développement social et économique d'une nation, il faut visualiser la place du travail dans nos sociétés traditionnelles. Le travail, il lie homme-femme depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse. Ce lien crée une solidarité dans la satisfaction des besoins tant collectifs, survie de la communauté qu'individuelle. Et partage des fruits du travail. C'est-à-dire que la construction d'une société moderne, il s'agit en fait de réorganiser ce lien avec l'introduction dans ce programme 2015, un moyen d'échange dans la coopération sud-sud et définir que le travail décent oblige la mise en place d'une protection sociale qui soit effective pour tous et supporté par tous, promouvoir le dialogue social à la place des violences, créer la confiance et savoir surtout que le coût du dialogue social est toujours moins cher que le coût de la guerre et l'instabilité économique.